Vous écoutez, on lit pour vous.
Nous ne luttons pas à armes égales. Un texte de Maxime Coulombe, paru le 11 juillet 2023 dans La Presse. Maxime Coulombe est professeur au département des sciences historiques de l'Université Laval. Voici son opinion. Vivek Murthy, chirurgien général des États-Unis et administrateur de la santé publique, a récemment proposé de placer un bandeau d'avertissement sur les pages des réseaux sociaux signalant le danger de leur utilisation pour les adolescents. En entrevue au New York Times, il a apprécié sa démarche et affirmé qu'il est temps de reconnaître que les parents et les adolescents eux-mêmes ne luttent pas à armes égales avec ces plateformes. Les plateformes elles-mêmes sont conçues par certains des meilleurs designers de produits au monde, soutenues et financées par les entreprises les plus riches au monde et informées par les recherches les plus récentes sur le cerveau. En tout cas, ultimement, pour maximiser le temps passé sur les plateformes par nos enfants, explique-t-il. Dire à des parents qui n'ont pas grandi avec ces plateformes, qu'ils devraient gérer ces outils en perpétuelle transformation et garder leurs enfants en sécurité, alors qu'ils ne comprennent même pas entièrement les méfaits de ces technologies, c'est à la fois injuste et irréaliste, ajoute-t-il. Une telle proposition fait écho aux discussions qui ont animé le Conseil général de la CAQ le 25 mai 2024. Vu l'importance des enjeux, il faut sans doute revenir sur ce débat et, plus exactement, sur la manière dont il est formulé, ici au Québec. Rappelons les faits. Lors de ce Conseil général de la CAQ, une proposition a été discutée pour l'instauration d'une majorité numérique à 16 ans pour l'ouverture d'un compte sur les réseaux sociaux, ainsi qu'une vérification rigoureuse pour accéder aux sites réservés aux personnes majeures. La proposition a été diluée pour ensuite être renvoyée à une commission parlementaire sur la question. Sans doute est-ce mieux que rien, mais il est temps que le gouvernement agisse sur cet enjeu et agisse en se dotant, comme le font de plus en plus de pays développés, d'une politique générale sur les jeunes et le numérique. La bataille n'est pas gagnée d'avance. Et il vaut la peine de rappeler les opinions et arguments de certains militants caquistes et de la députée Isabelle Lecourt, indiquant le chemin à faire pour sensibiliser la population et les politiques au risque des réseaux sociaux. La députée Lecourt s'est prononcée contre la proposition pour une majorité numérique, arguant que les personnes peuvent aller voir un médecin à partir de 14 ans sans l'approbation de leurs parents. L'affirmation fait sourire, mais elle met la table. Producteur de dépendance. À l'aune d'un tel argument, on pourrait prétendre que, puisqu'on peut aller voir son médecin à 14 ans, on pourrait tout aussi bien, à cet âge tendre, acheter des cigarettes, de l'alcool et pourquoi pas du pot. Car, comme pour l'alcool, le tabac ou la drogue, et tel est le fond de l'affaire, nous sommes face à des technologies numériques qui produisent une dépendance, qui jouent sur la vulnérabilité identitaire et la volonté de reconnaissance des adolescents. En cela, il n'est pas si sûr que François Legault, qui comparait les réseaux sociaux à des pocheurs, exagérait. Rappelons ce qu'a souligné l'un des créateurs de Facebook, Sean Parker. Nous devions en quelque sorte vous donner un petit coup de dopamine de temps en temps lorsque quelqu'un aimait ou commentait une photo ou un article ou quoi que ce soit d'autre. Il s'agit d'une boucle de rétroaction fondée sur la validation sociale. Vous exploitez une vulnérabilité dans la psychologie humaine. Nous l'avions bien compris. Nous l'avons fait quand même. Admirons au passage le cynisme décontracté de ces designers qui préfèrent envoyer leurs enfants dans de chics écoles de San Francisco où les nouvelles technologies sont interdites. C'est une règle de base des pocheurs, justement. Ne pas se droguer avec ce que l'on vend. On ne peut pas simplement faire du rapport au numérique une question de première éducation par la famille, une responsabilité des parents, à moins de vouloir étendre le même raisonnement, encore une fois, à l'alcool ou à la drogue. Nous avons collectivement décidé que nous ne souhaitions pas voir nos enfants acheter et consommer de l'alcool et des cigarettes. Il serait désormais temps d'assumer les conclusions des études, nombreuses, qui soulignent le potentiel addictif des nouvelles technologies et la façon dont ces réseaux fragilisent la confiance en soi des adolescents, bien plus qu'ils leur permettent d'être en relation. La proposition d'une majorité numérique n'est pas extrême. Elle tombe sous le sens et prend acte de ce que la recherche sur les nouvelles technologies affirme depuis au moins 10 ans. Qu'elle ait été diluée, puis renvoyée en commission parlementaire, montre bien les forces lénifiantes qui luttent contre ce qu'il est difficile d'appeler autrement qu'une évidence. Comme pour l'alcool ou la cigarette, la première de ces forces est notre rapport personnel à la substance addictive. Et puis, pas trop loin derrière, le lobbyisme, plus ou moins discret, de ces immenses entreprises. C'était « Nous ne luttons pas à armes égales ». Un texte de Maxime Coulombe, paru le 11 juillet 2024 dans La Presse.
Comment mesure-t-on la survie des arbres plantés par les gouvernements? Un texte de Boris Prou, paru le 24 juillet 2024 dans Le Devoir. Le gouvernement canadien commence tout juste à mesurer la survie des premiers arbres mis en terre dans le cadre de la promesse du fédéral d'en planter 2 milliards en une décennie. Les responsables de Ressources naturelles Canada réaliseront des enquêtes techniques à l'été 2024 pour évaluer l'état général des sites de plantation au moyen de mesures sur le terrain et de techniques de télédétection, a confirmé le ministère fédéral par courriel. Ottawa n'a pas souhaité chiffrer ses attentes, faisant valoir qu'il faut de nombreuses années pour arriver à en savoir plus sur la capacité des arbres à survivre. Les ambitieuses promesses de plantation d'arbres du premier ministre Justin Trudeau ont pour objectif principal de créer de nouvelles forêts capables de capter du carbone et donc d'améliorer le bilan des émissions du pays. La survie des arbres est capitale, puisque ce n'est qu'à long terme que ces végétaux commencent à capter du carbone. Le programme 2 milliards d'arbres devrait même être un émetteur net de gaz à effet de serre jusqu'en 2030. Or, les personnes chargées de mettre les pousses en terre et d'assurer leur épanouissement ne sont pas directement des employés fédéraux, mais plutôt des partenaires. Entreprises, organisations à but lucratif, groupes autochtones, municipalités, etc. Ceux-ci doivent présenter leur projet au gouvernement fédéral qui ne paie que la moitié de la facture. Le commissaire à l'environnement du Canada a justement critiqué l'an dernier le peu d'attention que prêtait Ressources naturelles Canada à la surveillance de la santé et de la survie des nouveaux arbres plantés par ses partenaires. Le ministère s'est depuis doté d'un plan qui prévoit notamment l'utilisation de drones pour surveiller les forêts au fil du temps. Puisque la durée de vie des arbres plantés dépassera de beaucoup celle du programme 2 milliards d'arbres, les bénéficiaires de l'aide financière fournissent la géolocalisation de chaque site de plantation afin que Ressources naturelles Canada puisse utiliser les technologies actuelles et futures pour continuer à surveiller les sites de plantation une fois le programme terminé, précise le ministère. Des spécialistes du gouvernement ont d'ailleurs déjà visité une vingtaine de plantations depuis l'automne 2023 et ont fait état d'activités de plantation de grande qualité. Le programme fédéral 2 milliards d'arbres est conçu pour transférer une partie de la facture aux provinces, ce à quoi le Québec et l'Ontario n'ont toujours pas adhéré. En février 2024, Ottawa a refusé net la demande de Québec qui souhaite qu'un assouplissement des critères vienne donner le droit de couper ces arbres un jour pour en faire des matériaux de construction. C'était « Comment mesure-t-on la survie des arbres plantés par les gouvernements ?» un texte de Boris Proulx, paru le 24 juillet 2024 dans Le Devoir.
Se donner les moyens pour le village. Un texte de Denis Daniel Boulay, paru le 21 juin 2024 dans le magazine Fugue. Itinérance, sécurité, consommation de drogue, construction de logements, et pas seulement sociaux, revitalisation de la rue Sainte-Catherine dans sa partie village, les sujets ne manquent pas lorsqu'on a la chance de parler avec le conseiller municipal de Saint-Jacques et membre du comité exécutif de la ville, responsable de l'urbanisme et de l'itinérance. Les dossiers sont nombreux et l'on peut sentir une impatience dans la population qui habite dans et autour du village et qui a le sentiment que rien ne change. Robert Baudry. C'est un peu normal quand on est en situation de crise comme on peut l'être actuellement à Montréal. Crise sociale, crise du logement, crise des opioïdes. Personne n'est insensible à la vulnérabilité qui est dans la rue et des fois les résidents, résidentes comme les commerçants, subissent les contre-coups de ces vulnérabilités-là. Quand on parle de transformation profonde d'un secteur, c'est bien certain que ce sont des choses qui vont se faire. Cela s'inscrit dans le temps. Je pense que depuis le début du mandat de Valérie Plante, plusieurs initiatives ont été prises et la ville doit continuer ses actions et les multiplier. Mais je le dis et le répète, c'est collectivement que l'on doit monter d'un niveau face à la croissance de la vulnérabilité, face à la croissance de la vente et de la consommation de drogue, face à la croissance de l'itinérance. Quand on a mis en place la stratégie collective, et je pense de l'avoir dit dans une entrevue précédente, on ne voulait pas que ce soit un plan uniquement Ville de Montréal, parce qu'il nous aurait manqué des morceaux en termes de juridiction, en termes de coûts, mais aussi en termes de prise en charge pour que tout un chacun s'investisse et qu'on obtienne des consensus pour aller ensemble dans le même sens. On a eu des consensus sur les enjeux de sécurité, sur le développement culturel, sur le développement commercial. Donc, on continue notre soutien pour l'activation de la rue Sainte-Catherine. On veut aller plus loin, bien évidemment. Un exemple de cette activation serait la création de la place du village. Robert Baudry. La place du village va devenir un endroit avec une forte programmation. Pas une programmation qui soit gérée par la ville, mais qui soit déployée par nos partenaires communautaires du milieu. Un lieu pour offrir, par exemple à Réseau, à Spectre de rue ou à d'autres organismes, la possibilité de proposer des activités ponctuelles ou régulières. On a lancé, lors de l'inauguration de la place du village, la création d'un fonds d'initiative locale de 500 000 $. Et on interpelle les partenaires privés et les entreprises privées qui souhaitent changer les choses dans le village pour profiter de cette occasion. Il y a un fonds qui est créé. On cherche des partenaires qui pourraient mettre l'épaule à la roue, c'est-à-dire en participant financièrement pour des appels à projets à partir de septembre. On a approché des institutions financières qui sont fort intéressées. Il y aura un comité pour les appels à projets, des projets communautaires, des projets d'entreprise, des projets qui pourraient être liés, par exemple, à l'embauche d'agents d'accueil, d'agents d'entretien, à un café solidaire, à du soutien pour une initiative pour avoir un marché sur rue. Les solutions ne peuvent pas venir uniquement de la ville. Elles doivent venir aussi de la communauté, et ce sont souvent là que se trouvent les meilleures idées. Mais en gardant en tête les axes décidés par le Forum du village qui sont identité, développement social, sécurité. Initiatives publiques, privées ou communautaires, mais ces initiatives ne viennent-elles pas pallier le désengagement des autorités provinciales et fédérales si l'on parle de sécurité ou de drogue? Robert Baudry. En fait, pendant des années dans le Centre-Sud, le réseau communautaire a pallié le manque de présence du réseau de la santé pour la population en situation d'itinérance, d'extrême pauvreté et d'exclusion. Il y a aujourd'hui une telle pression que le réseau communautaire n'a plus les moyens d'offrir des services adéquats ou mieux adaptés à la situation d'aujourd'hui. Je ne pense pas qu'avec le Fonds d'initiative locale, on vient pallier les manques. Bien au contraire. Je pense que c'est faire levier avec ces initiatives, mais il n'est pas exclu que ces initiatives puissent être financées par les autres ordres de gouvernement. On a une belle relation avec le ministre responsable des services sociaux du Québec, Lionel Carman, sur le dossier de l'itinérance. Sur la sécurité, bien sûr que nous sommes préoccupés. Le fait de savoir que les équipes mixtes, policiers couplés à des intervenants sociaux, devraient être coupés comme cela a été annoncé, pour moi, c'est préoccupant. Et ce n'est pas juste avec Lionel Carman qui doit s'investir, mais avec tout le gouvernement si on veut éviter que la rue soit l'hôpital ou le logement, comme le dit la mairesse de Montréal. Cela doit devenir l'une des priorités du gouvernement, comme c'est la priorité de la ville. La création de nouveaux logements, la prise en charge dans des ressources 24/7 d'une population vulnérable. Si des personnes consomment des drogues dans l'espace public, c'est qu'elles n'ont aucun lieu pour consommer en toute sécurité. Et cette situation crée de l'insécurité pour les résidents-résidentes et les commerçants-commerçantes. Le réseau de la santé doit financer le réseau communautaire comme on finance nos hôpitaux, parce que sinon c'est la rue qui devient l'hôpital. Cela prend des ressources réparties sur le territoire pour les centres d'accueil, c'est-à-dire des endroits où on va accepter la personne comme elle vient, intoxiquée ou non, avec son chien, son conjoint ou sa conjointe, ses enfants parfois. Au bas mot, on a à Montréal 1600 places en refuge l'été et 1800 en hiver. C'est très peu. Et il faut aussi construire pour stopper l'hémorragie des gens qui se retrouvent à la rue. Le logement est une finalité, pas les refuges. On doit travailler avec le gouvernement. On a eu une première bonne nouvelle sur les évictions de personnes âgées, mais il faut les multiplier. De notre côté, on a stoppé les transformations de maisons de chambre. On les a achetées pour les transformer en OBNL pour une meilleure gestion. Les maisons de chambre sont souvent le dernier rempart avant l'itinérance et aussi des lieux de consommation, mais sans aucune supervision. Leur fermeture implique qu'il y aura de plus en plus de consommateurs dans l'espace public. Vous écoutez « Se donner les moyens pour le village ». Un texte de Denis Daniel Boulay, paru le 21 juin 2024 dans le magazine Fugue. En attendant des lieux d'accueil ou des logements pour ces personnes en détresse, on voit de plus en plus d'actes violents commis le plus souvent par des personnes intoxiquées. Robert Baudry. Les personnes consomment des substances de plus en plus impactantes au niveau cognitif, qui font en sorte qu'elles ont des épisodes de désorganisation totale pouvant amener de la violence et amenant ce sentiment d'insécurité dans la population. Nous travaillons avec le service de police de la ville de Montréal, SPVM, et il y aura plus de policiers à pied et à vélo dans le secteur du village, mais aussi en vue de contrer la criminalité, c'est-à-dire les vendeurs de drogue, autour des stations de métro Baudry et Papineau. je fais une différence entre les consommateurs de drogue et la criminalité, c'est-à-dire les revendeurs. On est en discussion avec le SPVM pour tenter de résoudre ce problème. On a l'aide cette année de la STM et de ses constables spéciaux qui interviendront non seulement dans les stations, mais aussi à la périphérie des stations Baudry et Papineau. Nous avons une très bonne collaboration avec le directeur du SPVM, Fadi Daguerre. Quelle aide apporter aux consommateurs qui se piquent ou inhalent dans la rue? Avons-nous assez de personnel qualifié en santé et en travail social pour éviter qu'ils consomment dans la rue? Robert Baudry. Actuellement, il y a l'organisme Cactus et le bus L'Anonyme, et c'est à peu près tout. Il faudrait beaucoup plus de centres d'injection répartis à l'échelle de la ville, mais cela ne fait pas encore consensus. Les résidents, résidentes n'ont pas envie d'avoir des centres près de chez eux, et cela se comprend. Mais on doit trouver des lieux sécurisés pour ces personnes-là, et cela relève du domaine de la santé publique. Des lieux pour accueillir des personnes qui décompensent si on parle de toxicomanie, mais aussi pour celles avec des problématiques de santé physique ou mentale. Je reprends encore les propos de Valérie Plante. La rue n'est ni un hôpital, ni un logement. Parlons justement alors du logement, de construction aussi bien de refuges que de logements sociaux ou abordables. Robert Baudry. Québec a annoncé 400 unités pour une population plus vulnérable. On est en train de travailler avec eux pour l'émergence de projets. Il faut rappeler qu'il y a de beaux projets qui sont nés dans le secteur du centre-ville près du village. Je pense par exemple sur la rue Atatéken, avec 54 studios de logement pour hommes vulnérables, en collaboration avec la SHDM et la Maison du Père. On a inauguré récemment le Christin de l'accueil Bonneau, qui peut accueillir jusqu'à 258 résidents-résidentes. Il faut accélérer cette construction-là. C'est pour cela que nous achetons des terrains et des maisons de chambre en faisant jouer le droit de préemption, des logements, en fait, que l'on préserve de la spéculation. Ces maisons de chambre seront gérées par des OBNL et réservées à des populations dans le besoin. Il y a aussi le développement immobilier autour de la tour Radio-Canada. On a réservé des terrains pour des logements sociaux. Ce sont des montages financiers complexes. Et il faut rappeler encore une fois que la ville ne finance qu'une seule partie des projets, puisque 90% du financement vient du gouvernement du Québec. Si on pense aussi au Fonds d'acquisition québécois, FAQ, c'est le gouvernement du Québec qui le gère à 100%. On met en place un comité sur les populations très vulnérables qui n'ont pas accès au logement ni aux services avec le réseau de la santé, le réseau communautaire, des experts dans le but de regarder à l'international des modèles de construction plus rapides dont on pourrait s'inspirer pour la construction de logements. Il y a aussi de grands chantiers en vue dans les mois qui viennent et qui vont retarder la revitalisation de la rue Sainte-Catherine. Robert Baudry. Par quoi on commence? Rire. Le toit de la station de métro Berry et le parc Émilie-Gamelin. Robert Baudry. On commence donc par les chantiers d'aménagement urbain, dont le chantier de la STM, effectivement, il va se déplacer vers le parc Émilie-Gamelin. Ce n'est pas l'entièreté du parc Émilie-Gamelin qui sera mise à mal, uniquement sa partie nord. Un triangle au coin des rues de Maisonneuve et Berry. Bien sûr, la grande partie des arbres matures seront affectés. On en profitera pour réaménager le parc pour le rendre encore plus accessible, plus ouvert, comme on a fait avec la place du village, et pour qu'il puisse y avoir aussi de l'animation. Ces travaux ont commencé au mois de juin. Les travaux sur la rue Sainte-Catherine dans le village. Robert Baudry. Si tout va bien, il devrait commencer en juin 2025, et on en profite pour réfléchir à quel type de rue on veut, avec des groupes de résidents, résidentes, pour requalifier la rue. Une rue piétonnière à l'année longue ou piétonnière plus longtemps durant l'année, etc. On termine la collecte des données et on pense dévoiler dans les prochains mois ce à quoi ressemblera la rue Sainte-Catherine après les travaux, mais aussi les différents tronçons de fermeture de la rue, entre quelle rue et quelle rue. Ce sont des travaux majeurs et onéreux d'infrastructures souterraines, mais ils sont nécessaires. On va bonifier considérablement la surface, car nous visons la qualité dans la mise en valeur du village. Tout comme on est en train de réfléchir à quelque chose d'envergure pour rendre hommage aux communautés 2SLGBTQ+, qui se situera sur la place du village. L'amélioration de la rue Sainte-Catherine ne peut se faire qu'en partenariat avec les premiers et premières concernés. C'est pour cela que l'on se réjouit de la création de l'Association citoyenne du village de Montréal. Valérie Plante, depuis son premier mandat, a souhaité un plus grand engagement des citoyens et citoyennes de la ville de Montréal, et elle veut donc favoriser les consultations avec la création de forums, ou encore récemment en dégageant de l'argent pour un fonds d'initiative locale, afin que tout le monde soit partie prenante et pas seulement les autorités pour améliorer la qualité de vie dans Montréal. Malgré les travaux à venir, les irritants actuels, vous restez optimiste et êtes convaincu que le quartier n'est pas en train de dépérir? Robert Baudry. Bien sûr que non. Je parlais avec la SDC du village et des commerces sont intéressés à venir s'installer dans le village. Et une dizaine ont vu le jour cette année et d'autres prévoient de s'y installer. Car il y aura de plus en plus de résidents résidents dans le quartier quand on pense aux constructions de l'esplanade quartier, de la tour au-dessus du magasin Maxi qui va s'ouvrir au coin de Sainte-Catherine et Papineau. Concernant ce qu'on appelle le carré de l'ancien Da Giovanni, le promoteur a aujourd'hui tous les papiers signés pour commencer les travaux. Vous nous demandez donc d'être un peu plus patient, patiente et d'être plus engagé aussi? Robert Baudry. Pas seulement, mais je souhaiterais que l'on remarque plus les changements, même s'ils ne sont pas aussi spectaculaires qu'on le souhaiterait, qu'ils s'inscrivent dans la durée pour éviter de revivre des crises et qu'ils démontrent que la mairesse, la ville en général, est consciente et ne cesse de multiplier les initiatives pour améliorer la situation. C'était « Se donner les moyens pour le village ». Un texte de Denis Daniel Boulay, paru le 21 juin 2024 dans le magazine Fugue.